L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
La lecture de l'Ancien Testament pose souvent problème. Pourtant, ces livres d'avant Jésus portent des dimensions importantes de la foi à travers l'histoire d'alliance entre Dieu et ce peuple faite d'avancées, d'aléas, de reculs, de guerres, de famines. Se joue l'expérience de la ténacité, de la patience et de l'amour ininterrompu de Dieu pour ces hommes qui sont souvent versatiles. Alors Alain Patin, bonjour. Vous êtes prêtre depuis 25 ans en région Île-de-France. Vous accompagnez les mouvements apostoliques en mission d'ouvrière. Et avec ce nouvel ouvrage, Se laisser étonner par l'Ancien Testament dans les pas d'Abraham, Moïse, Élie et Jonas, vous poursuivez votre travail pédagogique pour dire simplement ce qui paraissait fort compliqué. On se souvient de vos ouvrages, celui qu'on appelle Jésus, pas d'exclus pour la fête, Dieu personne ne l'a vu, un grand champ à moissonner, ce feu dévorant. Et là, le titre, Se laisser étonner. À qui vous adressez-vous ?
Ben, je m'adresse surtout à des gens qui sont devant le, un peu décontenancés devant l'Ancien Testament, parce que ça leur envoie une image de Dieu à travers beaucoup de textes qui leur semblent assez éloignés de l'image que Jésus donne de son Père. Quoi. Et mon propos, c'était de montrer qu'au contraire, pointe déjà, à travers un certain nombre de textes de l'Ancien Testament, eh bien, pointe déjà le Dieu de Jésus-Christ, quoi.
La figure du Christ. Alors, ce qui est assez épatant, parce que ce n'est pas un livre d'une seule plume, comme on le sait, une plume qui aurait pu préparer la présence du Christ à l'intérieur de l'Ancien Testament, mais ce sont des auteurs qui ne se connaissent pas, qui sont quelquefois sur des milliers d'années de différence, en tout cas sur des siècles, et on a cette figure du Christ qui est là et que vous ressortez dans votre livre.
Oui, ce qui est important, je crois que c'est l'intérêt de l'Ancien Testament, c'est de montrer la ténacité de Dieu à faire avancer son projet qui nous est donné tout au début, c'est-à-dire de faire de cet homme auquel il confie sa création, de faire de cet homme le gestionnaire de l'affaire et de lui confier la réussite dans laquelle lui-même, l'homme, est impliqué, quoi. Et donc, on voit bien que c'est quelque chose qui a du mal à passer, quoi, et qu'il faut y revenir souvent. Et je trouve qu'au moins, l'Ancien Testament porte cette idée de la ténacité de Dieu, de son caractère. Il ne se laisse pas abattre par les refus des hommes, quoi. Voilà.
Oui, mais on parle souvent d'un Dieu colérique, d'un Dieu vengeur dans l'Ancien Testament.
Oui, alors moi, je ne sais pas si c'est tout à fait... tout à fait correct ce que je vais dire par rapport aux exégètes. Moi, je suis un vulgarisateur, c'est-à-dire que j'essaye de dire un peu simplement ce que des auteurs qui sont beaucoup plus compétents que moi disent d'une manière un peu compliquée. Mon idée, c'est celle-ci, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a à la fois Dieu qui cherche à se révéler, parce que c'est quand même notre foi, c'est que notre foi, c'est une religion révélée, c'est-à-dire c'est lui qui a voulu se faire connaître. Et puis, il y a aussi tout ce que les hommes qui ont écrit ces textes portent d'idées, d'images de Dieu. Et il y a un peu comme Dieu qui essaye de sortir d'une gangue dans laquelle il est un peu enfermé. Donc, il y a à la fois de sa révélation et il y a aussi à la fois de l'imagination des hommes et des femmes, quoi.
Alors, se laisser étonner par l'Ancien Testament, vous prenez Alain Patin quatre personnages bibliques Abraham, Moïse, Élie et Jonas. Alors moi je me suis dit mais pourquoi pas Job qui me semble quand même central, pourquoi pas Salomon dont le discernement est un point fort de la chrétienté, ou même David puisque Jésus serait de sa lignée. Donc moi je voulais opposer trois personnages, à savoir Job, Salomon et David. Et puis là vous nous parlez de Abraham, Moïse, Élie et Jonas. Comment avez-vous fait ce choix-là?
J'ai fait ce choix, je pense, en fonction du Nouveau Testament. Parce que c'est quand même les personnages dont on nous parle nommément dans le Nouveau Testament. Hein. C'est-à-dire Jésus, je suis parti de cette idée. Bon, au départ, je voulais appeler ce livre « Le signe de Jonas ». On m'a dit « Bon, ça ne veut rien dire », donc j'ai
Mais je crois que ça existe surtout ce titre déjà, non, Jean-François Rode, ça vous dit rien?
Probablement, mais...
Moi, il me semble avoir, mais, lu, oui, avoir mais, vu ça sur les tables de la procure.
Sans doute, parce que effectivement, c'est bien une phrase de Jésus, donc vous partez bien de ça en disant...
Je pars de Jésus et qu'il nous invite à plonger dans l'Ancien Testament à travers... Vous n'aurez d'autre signe que le signe de Jonas.
Absolument.
Voilà. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et donc, c'était ma porte d'entrée pour... donnée par Jésus pour rentrer dans l'Ancien Testament. Après, bon, je pensais à Abraham, parce que Abraham, c'est une figure qui revient souvent, pas forcément un peu Jésus, mais surtout Paul. Hein. Paul, dans les Galates, dans les Romains, abonde sur Abraham. Donc c'est des gens dont on parle. Donc c'est important de savoir de quoi on parle. Et puis ensuite, Moïse et Élie, bon, bah, ils sont là...
À la transfiguration.
Donc c'est ça qui a guidé mes choix, quoi. Et après, c'était, j'aurais bien parlé d'autres personnages, mais après, on vous dit, non, il y a trop de pages, ça coûte trop cher.
Juste pour répondre un peu plus... Il y a Jean Grosjean, en tout cas, qui a fait un petit Jonas.
Oui.
Je crois que c'est... Enfin, je suis même sûr que c'est chez Gallimard, qui est très, très beau. Mais je n'ai pas la référence précise, par exemple, d'autres livres qui s'appelleraient Le signe de Jonas. Mais vous en parlez très bien au début, et vous soulignez, d'ailleurs, combien ce conte... et plein d'humour, en fait, aussi, et révèle beaucoup de choses de Dieu, précisément, avec une nuance d'humour. Par exemple, Dieu appelle Jonas, hein, vous rappelez l'histoire, hein, il lui dit « va à Ninive », et alors le texte dit, aussitôt après, ben, Jonas partit, justement à l'envers, justement loin de Ninive, pour ne plus entendre Dieu lui demander de lui donner ses missions. Il y a beaucoup de style, finalement, dans Jonas.
Donc, même de rebelle. Hein.
Je voudrais dire aux auditeurs que, franchement, ce livre-là fait une œuvre utile. Parce que, de fait, l'Ancien Testament n'est pas facile à aborder. Et, avouons-le, peut-être beaucoup de gens se disent « Bon, bah, après tout, j'ai les évangiles, j'ai saint Paul, j'ai saint Jean, point. Peut-être pas tellement besoin d'aller me plonger dans l'Ancien Testament. » Le livre démontre le contraire. Il démontre qu'il faut aller voir... et interroger ces grandes figures que sont justement Abraham, Moïse et Élie. C'est vraiment... Alors, après, on y reviendra, mais vous avez vraiment un grand talent pour expliquer de façon effectivement simple, mais en même temps subtile, la dimension de ces personnages. Vraiment, c'est un livre que je recommande beaucoup parce qu'il est très... Il est très explicatif. Et il montre pourquoi c'est important.
Ça, c'est un peu, si vous voulez, c'est mon créneau de toujours... C'est-à-dire que des livres bien sur la Bible et tout ça, il y a beaucoup. Moi, j'en ai lu beaucoup. Mais je trouve que c'est toujours compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas abordable facilement par des gens qui ne sont pas des spécialistes. Il y a des mots compliqués, il y a des perspectives qu'il faut connaître d'autres choses pour comprendre et tout. Moi, j'essaye de vulgariser. Bon, hein, c'est tous les livres que j'ai faits, c'est ça, c'est d'amener la chose au plus près des gens. Quoi.
On a souvent l'expérience de gens qui ont dit, bon, ok, je décide de lire la Bible, parce qu'on me dit que c'est important, etc., puis de fait, ça l'est. Et donc, hop, ils prennent une Bible, ils achètent une Bible, et puis ils se mettent à lire, et puis, bon, au début, ça va, la Genèse, il y a encore pas mal de choses, mais enfin, c'est pas facile à comprendre, c'est là, mais quand on arrive au
Livre des Rois,
ou au Lévitique, sur le caleçon du grand prêtre, les gens disent, bon, attendez, c'est bien, mais bon, pourquoi, enfin, or, vous donnez les clés pour montrer que c'est très intéressant enfin, de lire l'Ancien Testament.
On a l'impression, à vous lire, Alain Patin, que vous répondez à des questionnements très concrets que vous avez déjà éprouvés. Est-ce que c'est le dialogue avec les jeunes que vous avez en permanence, est-ce que c'est le questionnement de chrétiens que vous croisez qui anime votre plume pour que finalement vous apportiez un certain nombre de réponses dans votre livre?
C'est-à-dire que moi, les livres que j'ai faits, c'est souvent à partir d'un travail qu'on fait avec des personnes. J'accompagne depuis beaucoup d'années un groupe de lecture biblique. Par exemple, lorsque j'ai fait le livre sur les paraboles, c'est un livre qu'on a fait ensemble. Enfin, on a étudié pendant 2 ans les paraboles. Au bout de 2 ans, je leur ai dit, tiens, c'est quand même intéressant ce qu'on a fait. Est-ce qu'on pourrait pas en faire un livre? On a passé une 3e année, on était une 15aine de personnes, à essayer, à partir de là, de faire un livre. Bon. Moi, la plupart des livres que j'ai écrits, je les ai toujours faits avec d'autres personnes, hein, avec d'autres gens. Et donc, j'aime bien ce travail en commun, où, parce que ça apporte des éléments différents. Par exemple, celui-ci, là, sur l'Ancien Testament, ça laissait étonner. Je l'ai donné à lire à un certain nombre de gens qui participent à ce groupe-là. Et je leur ai demandé de me dire comment ils le recevaient. Et puis, à l'aide de leurs remarques, j'ai repris un peu l'ensemble du texte, quoi. Moi, j'aime bien ce genre de travail, quoi.
Mais oui, et c'est très vivant, et ça rend votre livre très vivant. Se laisser étonner, pourquoi ce titre?
Parce que, si vous voulez, j'avais un titre. Alors, on m'a dit, Jonas, c'est pas bon.
Bon.
Ça, donc, j'avais un autre titre qui était de dire... Jonas, Moïse, Abraham, tout ça, ces hommes qui ont été déroutés par le Dieu qu'ils ont rencontré.
Oui.
Il m'a dit, c'est trop long. Après, il m'avait proposé redécouvrir l'Ancien Testament. Je trouvais que ça faisait plat, quoi.
Oui, ça faisait un peu pub.
Redécouvrir, bon, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai dit, tiens, ben, pourquoi pas se laisser étonner, quoi. Ça me paraissait plus actif, quoi.
Moi, je suis d'accord, je trouve que c'est bien plus parlant, bien sûr.
En vous lisant, j'avais envie de titrer « Se laisser saisir par l'Ancien Testament », parce qu'il y a quelque chose qui vous happe, quand même.
Ouais.
Alors, revenons sur vos quatre héros, d'une certaine façon. Donc, on a Moïse, qui est témoin du projet de Dieu pour toute l'humanité. On a Élie, qui découvre que Dieu est vivant et qui ne peut donner la mort. On a Jonas, qui est le type même du rebelle, qui doit porter un message dont il ne veut pas. Et puis Abraham, qui est notre père à tous, d'une certaine façon, synonyme d'une foi vécue comme une confiance totale en la parole de Dieu. Vous n'avez pas voulu sortir, c'est très à la mode, de sortir un personnage féminin?
Non, parce que...
Parce qu'il y en a, hein.
Oui,
et il y a une sacrée belle histoire.
Sarah est quand même très présente dans le chapitre sur Abraham, non?
Oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est y a des gens qui ont fait des bouquins très très bien sur les personnages féminins de l'Ancien Testament et du Nouveau, d'ailleurs. C'est bien.
Bon.
Non, moi, je vais vous dire, bon, Abraham, je trouve que c'est, pour moi, je le dis souvent, c'est le personnage auquel se réfère le plus de monde dans l'humanité, l'humanité qui comporte 8 milliards d'êtres. Il y a à peu près la moitié des gens qui se réfèrent à Abraham. Donc c'est beaucoup plus que Jésus. Donc c'était quand même un personnage très important. Et tout le monde le reconnaît comme leur père dans la foi. Donc il apporte sur quelque chose. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que ces personnages-là, c'est pas les histoires de saints. L'histoire de saints, on a l'impression que les types, ils sont même pas nés, qu'ils sont déjà saints. tout c'est merveilleux d'un bout à l'autre, quoi. Abraham, c'est pas merveilleux d'un bout à l'autre. Il a des grands élans de foi, et puis de temps en temps, il fait des petits bricolages pas très corrects.
Oui,
avec
Pharaon, enfin, on a tous oublié que Abraham a été en Égypte.
Il va encore oublier du tout.
Ah non, t'as pas oublié, tant mieux.
Après, il recommence avec Abimelech, 10 ans après.
Oui. Et puis il prostitue sa femme.
Il dit c'est ma sœur.
Oui. Et ensuite, Pharaon est en colère parce qu'il se rend compte que c'est son épouse. Il lui laisse les bijoux, je crois, et il rentre. Et le chapitre suivant...
Il s'en va à toute vitesse. Hein.
Et le chapitre suivant, alors je vais vous faire bondir, Alain Patin, mais c'est surtout Jean-François qui va bondir. Et le chapitre suivant, après le retour d'Égypte, c'est il part avec son fils dans la montagne pour le sacrifier.
Ah non, pas tout de suite. Ah ben non, il n'est pas né encore.
Il faut 25 ans.
25 ans. Avant
oui, mais c'est très très proche dans le récit.
Pas. Non, juste après, c'est l'histoire de Lot. Lot qui se bagarre, il y a les bergers de Lot et les bergers d'Abraham qui se bagarrent pour les pâturages et tout. Et là, au contraire, il a une belle perspective de générosité. Il lui dit, choisis toi-même, quoi. Alors que c'est lui le patriarche à choisir. Il donne le choix à son neveu, quoi, pour la paix, pour qu'il y ait la paix.
Alors, puisque j'ai promis de vous faire bondir tous les deux, est-ce qu'Isaac n'est-il pas le fils du pharaon?
Non, parce que c'est 25 ans après.
Ce qui expliquerait des choses.
Écoute la réponse.
parce que ça expliquerait le sacrifice, ouais. Et ça expliquerait aussi le geste magnifique de Yahvé, qui finalement le plus grand sacrifice, c'est le pardon.
Hmm. Non, mais dans, dans l'histoire de, d'Isaac, je sais pas si vous avez regardé, mais toute la première partie, c'est Elohim qui lui demande.
Alors, ça c'est très voilà. Important.
Oui. Oui. Elohim, ça veut dire les dieux, c'est le pluriel quand même. Donc c'est les images de Dieu que portent les contemporains d'Abraham, et lui aussi, il est impressionné par ça. On sacrifie ce qu'on a de meilleur pour essayer d'attirer hein, la bienveillance de Dieu, parce que plus c'est dur, plus on va attirer cette bienveillance. Alors que quand refuse, c'est Yahvé qui refuse. Yahvé, l'ange de Yahvé qui dit non, pas question. Mm. Et donc là, on a un beau passage, au contraire, on est exactement dans ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a à la fois des choses qui viennent d'ailleurs, et il y a Dieu qui cherche à se révéler comme il est.
C'est très important, parce que c'est vraiment un texte scandaleux, quoi. Enfin, moi, Dieu me demanderait de sacrifier mon fils, moi je lui dirais non, en fait. Hein. Je suis désolé de vous choquer, mais...
Vous ne me choquez pas.
En fait, justement, c'est très important de montrer qu'il y a une évolution, une transformation, que précisément, il fallait dépasser ce qu'on croyait être le meilleur des sacrifices, c'est-à-dire sacrifier son fils aîné. Mmh. Il a fallu dépasser ça, le sacrifice des enfants.
C'est très bien raconté. C'est dans le texte.
C'est bien dans le texte. Ouais, ouais. Mais on ne le lit pas assez comme ça.
Bah non.
Enfin, non, mais je veux dire, c'est pour ça que le livre est important. Ouais. Parce qu'il il permet de rentrer dans des choses un peu compliquées. Mais en même temps, on comprend mieux à ce moment-là, quand on a repéré ce double nom de Dieu, par exemple.
Oui, et la question du nom, justement, est très importante. Et à quel moment ça arrive et comment ça prend écho dans le peuple de Dieu. Tout ça, c'est fondamental, parce que celui qui nomme, c'est celui qui désigne, c'est celui qui définit. Et je suis celui qui est, on a déjà la Trinité dedans. Je suis celui qui est. On a trois fois la même chose. Et on a déjà la Trinité. Et cette révélation à Moïse donne déjà la Trinité, le Dieu, enfin c'est déjà la carte de visite du Dieu trinitaire. Et je suis celui qui est. C'est quand même assez épatant cette histoire. Mmh. Alors Moïse, justement, c'est le témoin du projet de Dieu. Il est au plus proche parmi les quatre figures que vous transmettez Alain Patin dans votre livre, Se laisser étonner par l'Ancien Testament, dans les pas d'Abraham, Moïse, Élie et Jonas. Moïse a une figure très très importante parce qu'il est, on a l'impression, c'est peut-être lui qui a le plus d'intimité avec Dieu.
Oui, c'est-à-dire que c'était très compliqué parce que Abraham, ça, c'est facile à faire parce qu'il y a 12 chapitres à peu près, quoi.
Ouais.
Bon, ça. Mais Moïse, il y a 4 livres. Donc c'est pas possible, quoi. Donc il fallait choisir un angle d'attaque. Moi, j'ai choisi cet angle d'attaque. Moïse avec les démêlés qu'il a avec son peuple, quoi. C'est-à-dire l'écart qu'il y a entre ce qu'il essaye de leur transmettre de la part de Dieu.
Il est entre le marteau et l'enclume. Hein.
Complètement, tout le temps. Ouais. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de ce qu'est un conducteur de peuple, quoi. C'est-à-dire, à la fois, avec un projet magnifique, quoi, de libération, un peuple libre, la réticence. Les autres rêvant toujours à un passé idéalisé, d'ailleurs, où on mangeait tout ça bien... Ils mangeaient pas en Égypte. Ils étaient surtout esclaves, quoi. Mais c'est devenu une espèce de rêve idéalisé auquel on veut revenir. Alors que la proposition, c'est toujours d'aller plutôt vers l'avant, quoi.
Ben oui. C'était un peu le paradis perdu, parce que ceux qui avaient été esclaves ont décédé. Donc ce sont les enfants et qui arrivent, qui sont dans le désert et qui ne peuvent se raconter que du passé enjolivé. Et c'est ça qui marche pas, donc c'est très compliqué pour Moïse. Et j'avoue que c'est un personnage qui me touche énormément, comme vous disiez, peut-être plus qu'Abraham, parce qu'on sent toutes les tensions à la fois de l'histoire sainte, de l'histoire du salut. Et c'est vraiment l'histoire du salut qui se montre à travers Moïse.
Tout à fait. Moi, je crois que c'est un personnage immense. Enfin, il faudrait faire un bouquin rien que sur lui.
Mais ouais. Bon,
c'est justement, c'est là aussi, c'est toujours très important de voir que, il est élevé comme un prince égyptien. Il épouse une Madianite, celui qui est le plus grand le plus grand interlocuteur entre Dieu et son peuple. Il a beaucoup d'influences étrangères. Il passe par des périodes compliquées. Enfin, c'est très intéressant de voir que, comme vous le disiez au début, on n'est pas sur une histoire merveilleuse.
Ah non,
c'est extrêmement compliqué, de temps en temps un peu difficile justement à encaisser presque. Hein.
Alors Jean-François, je rappelle le livre d'Alain Patin, Se laisser étonner par l'Ancien Testament aux éditions jésuites. Je tiens à préciser que c'est un livre court qui fait 130 pages environ et qui se lit, avec bonheur, d'autant que vous avez mis des encadrés, vous avez mis des... donc on peut piocher aussi, on peut avoir une lecture où on pioche et on prend ce qui peut nous étonner.
On peut commencer justement par un des personnages.
Absolument.
Qu'on a envie un peu plus de
connaître. Et on peut se laisser étonner.
Et on voit si ça marche. Et à ce moment-là, on prend les autres.
Jean-François, qu'est-ce qu'on va aller voler sur les tables de la procure ?
Alors, je voudrais signaler un très beau livre, très, très curieux. Enfin, d'ailleurs, un peu dans la ligne de ce qu'on veut dire, parce que c'est une hagiographie qui ne ressemble pas du tout à une vie de saint habituelle. C'est Luc Adrian qui a fait un François d'Assise, Le Chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel. Et Luc Adrian a une vraie plume. Et au lieu de nous faire une histoire un peu, je caricature un peu, mais à l'eau de rose, il y a beaucoup de biographies de saints qui sont très intéressantes, hein, même sur Saint-François d'Assise. Mais lui, il a une véritable verve. Il a des portraits extraordinaires, c'est très vivant.
C'est rugueux.
C'est rugueux, on éclate de rire quelquefois, etc. Et donc, ça vaut le coup de signaler. Donc,
peut-être
encore temps de l'acheter pour Noël. François d'Assise est quand même un des personnages, là, pour le coup, dans l'histoire du christianisme, incroyable. Hein, c'est, quelque part, tout le monde se dit que c'est peut-être le plus proche de Jésus. D'ailleurs, tout le monde se réfère à lui, puis la crèche de Noël nous le rappelle encore, etc. Mais franchement, c'est un livre qui permet de dépoussiérer François d'Assise et qui permet de se replonger dans la radicalité d'un homme comme celui-là.
Bon, et bien alors, à lire.
Donc c'est Luc Adrian, François d'Assise, Le Chevalier sans armure, aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, très différent, je vous signale un petit livre merveilleux qui s'appelle Célébration du cogito, ne soyez pas effrayés, ça se lit très très bien, c'est de Denis Moreau aux éditions du Seuil. Denis Moreau est philosophe, et il est professeur de philosophie à Nantes, il a écrit beaucoup de livres pour bien... Enfin, il a le souci de faire comprendre ce qu'est réellement le christianisme à ses contemporains, en particulier à ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas chrétiens.
Il est aussi pédagogue qu'Alain Patin ?
Il est très pédagogue.
Ouais.
C'est un petit peu plus technique philosophiquement, mais en même temps, il montre que ce que fait Descartes dans cette définition du cogito, je pense, je suis, en fait, c'est une expérience fondamentale que tout le monde peut faire, et même peut-être que tout le monde doit faire. Si on ne prend pas un peu conscience de sa propre existence, dans une méditation métaphysique, d'accord, mais précisément une méditation spirituelle, eh bien, un certain nombre de choses ne sont pas possibles. Bon. Et là, il commence par faire la liste de tous toutes les références que l'on fait à cette formule de Descartes. Il dit, d'ailleurs, c'est une des formules les plus célèbres au monde entier.
Ouais.
Hein, je pense, je suis, qui est d'ailleurs modifiée, par exemple, pour la dictature. Hein. Je pense, donc vous suivez.
Oui.
Il y a énormément de... Il a beaucoup d'humour aussi là-dessus, mais il amène surtout à cette expérience fondamentale de prendre conscience de sa propre existence.
Mais c'est le ergo qui est important. Parce que c'est le donc.
Alors,
cogito, Ergo sum.
Mais il a toute une explication très technique, mais très précise sur oui. le fait que la formule n'est pas comme ça.
Aïe. Bon, alors il faut, faut se référer, rappelez-nous le titre.
Célébration du cogito, Denis Moreau. Je vous assure, n'ayez pas peur du titre, c'est très passionnant.
Bon, merci Jean-François Rhône, merci infiniment Alain Patin, se laisser étonner par l'Ancien Testament dans les pas d'Abraham, Moïse, Élie et Jonas aux éditions Jésuites. Merci Jean-Paul Lérine, François Dieudonné, Camille Meyer pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est vendredi, nous irons au théâtre, précisément au Café de la Gare pour rencontrer Caroline Devim. J'ai hâte d'être demain déjà. Alors prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.